Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Marie Montpetit. Elle connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Marie Montpetit.
Alors, en cette semaine de rentrée parlementaire, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Alors, pour en parler avec nous, Elsie Lefebvre, analyste politique à la Joute. Bonjour, Elsie.
Bonjour, Marie.
Bonjour. Alors, ça va être une courte session, Elsie, mais quand même, en à peine 4 jours de rentrée parlementaire, il s'est passé pas mal de choses sur la colline.
Ben oui, en fait, c'est sûr que c'est une session quand même importante parce que c'est le retour après des élections. C'est le deuxième mandat de François Legault, un mandat qui a gagné avec beaucoup de force. Donc, on l'a dit répété, 90 députés avec un peu plus de 40% des votes, c'est quand même pas rien. Donc, François Legault est bien en selle, on l'attendait. Et donc, c'est sur trame là de crise économique, d'inflation, pénurie d'emplois. On sort de la COP aussi, il y a la COP sur la biodiversité qui arrive à Montréal, donc il y a eu le discours d'ouverture du premier ministre où il y a 5 thématiques principales qui ont été mises à l'avant-scène, donc l'économie évidemment, l'éducation qui est une priorité du premier ministre, la santé, l'environnement, puis toute la question de l'identité, la langue française, la culture. Alors bon, on est reparti pour un autre 4 ans.
On est reparti pour un autre 4 ans, c'est ça, avec des priorités bien claires dans son discours d'ouverture. Et là, évidemment, on pensait qu'on avait 125 députés qui allaient siéger à l'Assemblée nationale. Mais finalement, cette semaine, il n'y aura que 122 députés qui ont siégé à l'Assemblée nationale parce que on se rappelle que le Parti québécois, c'était un peu le suspense de la semaine. Les 3 députés du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé, Joël Arsenault, qui ne souhaitaient pas prêter serment au roi, serment qui est obligatoire pour siéger au Salon Bleu. Et il y a une décision qui a été rendue aussi par l'ancien président de l'Assemblée nationale, François Paradis, à cet effet. Et on s'est demandé jusqu'à la toute fin là, s'ils allaient siéger ou pas. Et finalement, bien, ils se sont fait interdire l'entrée au Salon Bleu, là.
Oui, ben c'est sûr que c'était un élément marquant de la semaine de la rentrée parlementaire. Moi, j'ai trouvé, bon, tu sais, on peut débattre longtemps. Est-ce que c'est un sujet prioritaire? Est-ce qu'on aurait dû parler autant de ça? Bon, c'est pas Saint-Pierre Plamondon. On a dit, ben écoutez, on en a parlé, mais tu sais, c'est que ça intéresse les médias, ça intéresse aussi, bon, les acteurs qui suivent la politique, parce que ultimement, c'est quand même important. Le serment, tu sais, on prête le serment dans les salles de cours. Jurez-vous de dire la vérité, juste la vérité. Puis pendant des mois, quand on a parlé de cette affaire-là, tous les élus nous ont dit, ben écoutez, c'est sûr que j'y crois pas trop, je me parjure pratiquement quand je le dis. Donc, moi, je trouve que les mots ont un sens, le serment en a un, puis ils ont tenu leur bout, et moi, je salue ça. T'sais, je sais qu'il y en a qui ont dit, bon, toute une mise en scène, une pièce de théâtre, etc. Effectivement, ça a été bien mené, t'sais, donc d'un point de vue là de l'orchestre, là, t'sais, je veux dire, tout était bien ficelé, mais ultimement, ils ont réussi à démontrer et à réussir, parce que c'est pas rien, là. René Lévesque, Jacques Parizeau, Bernard Landry, tu sais, des patriotes, des gens qui croyaient profondément là au Québec et donc qui voulaient faire du Québec un pays, ont pas réussi. Tu sais, moi, je sais, ben, t'es toi aussi, tu sais, les deux, on a prêté serment. Bon, moi, à l'âge de mes 25 ans, à l'époque, j'avais chuchoté, là, tu sais, mais c'est tout ce que je pouvais faire. Je pensais pas qu'on, tu sais, c'était comme obligatoire. Puis là, mais lui, il a réussi par la force de ses convictions et sa droiture à mettre un terme à ça. Puis,
mais ben, si moi, le peuple a tellement raison, parce que, tu sais, j'entendais plusieurs plusieurs voix s'élever cette semaine qui disaient, ben là, sont donc bien obstinés, sont donc bien têtus. Le gouvernement s'est engagé à déposer un projet de loi. Québec solidaire va en déposer un aussi. Mais tu sais, une fois qu'on a dit ça, il y avait eu un débat aussi à la dernière législature. Il y a un projet de loi qui avait été déposé par Québec solidaire. Il n'a jamais été appelé par le gouvernement. C'est jamais une garantie. Là. Une fois que tu as prêté serment, tu sais, tout le monde peut bien s'engager à faire la discussion. Mais moi, je pense, tu as raison là-dessus, que ça met la pression sur certains éléments. Puis, tu sais, moi, je me souviens, là, écoute, j'ai prêté serment en 2014, j'ai prêté serment en 2018. Puis j'avais, puis tu sais, je suis pas indépendantiste, là, je te fais pas de grande révélation en disant ça, je suis pas souverainiste, mais je suis profondément très nationaliste, tu sais. Puis je me souviens que j'avais lu ça, puis j'étais comme, mon Dieu, je me parjure donc ben, tu sais, c'est pas vrai que je vais aller prendre les armes pour la reine d'Angleterre, bon là, c'est le roi, mais il y avait plein de petites choses comme ça où les gens, je pense, que réalisent pas à quel point c'est confrontant, tu sais, puis là, il dit, ah, ben là, c'est bien l'exagération, quand ils disent on s'est senti humilié, on s'est senti souillé. Moi, là, je te raconte une petite anecdote, là, quand j'ai été nommée en 2014, donc je prête serment, et là, il y a une Bible, tu sais, le serment sur la Bible est plus obligatoire, oui. Mais pour une raison que je peux pas t'expliquer, moi, quand j'ai fait mon assermentation en 2014, la Bible était là, et il fallait mettre la main dessus, tu sais. Donc, ouais, puis là, tu te fais appeler, tu commences pas à argumenter, là, tu sors par le petit salon en arrière, puis tu dis, bon. En 2017, on me disait, ah, Marie, tu vas être nommée ministre de la Culture. OK, je dis, parfait, extraordinaire. Je dis, là, puis là, on est rendu au petit détail de comment ça va se passer. Le lendemain, je dis, est-ce que, moi, j'aimerais ça pas être assermentée sur la Bible. Puis, tu sais, j'étais élevée, là, dans la religion et tout, mais je trouvais que ça faisait pas... je me disais, tu sais, je crois pas fondamentalement en Dieu. Je vais quand même pas encore là aller me perjurer. C'est la première affaire que je fais comme ministre. Et là, la réponse que j'ai eue, c'est, écoute, ministre de la Culture, du Patrimoine, on n'a pas envie de créer un scandale. Tu sais, l'histoire du Québec, la religion. Faudrait qu'on mette la Bible. Surtout, oui, absolument, on va mettre la Bible quand même. Bon, finalement, moi, j'ai fait comme quasiment un Times, les doigts croisés dans mon dos, puis j'ai mis ma main à côté. Tu sais, écoute, c'est ridicule. J'ai mis ma main à côté de la Bible pour pas avoir la main dessus. Puis j'étais comme, c'est donc bien ridicule que tu te retrouves dans ce genre de situation-là comme élu. Donc, j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup, beaucoup d'empathie pour les trois députés du PQ qui disent, on n'est pas à l'aise, puis on veut mener ce combat-là jusqu'au bout avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ben, puis tu sais, conséquences, on s'entend, là, c'est très relatif. Là, je pense que...
je veux dire, il pourrait y avoir des conséquences importantes parce que là, l'Assemblée nationale va se prononcer. Bon, ça va se transporter où? Probablement en cours, donc en cours fédéral, possiblement. Donc, c'est l'État canadien, ultimement, qui va devoir traiter de cet enjeu-là. Est-ce que le Canada va continuer à vitam aeternam sa soumission au roi Charles III? Parce que, tu sais, le roi Charles est quand même le chef d'État, tu sais,
du Canada. Ah non, t'as raison, des conséquences sur... moi, je parlais des conséquences pour les trois élus du Parti québécois qui prêteront pas serment, mais t'as raison que voilà. Mais les effets, t'as tout à fait raison que le ricochet de tout ça peut amener une discussion et quelque chose de beaucoup plus large que seulement l'entrée des députés au Salon Bleu en ce moment, là.
Ben c'est ça, puis tu sais, même au-delà de ça, si le Canada venait à se poser la question, puis tu sais, les trois élus québécois créent un genre de précédent, même dans le Commonwealth, là, tu sais, ça se discute en Australie, ça se discute ailleurs, là, cette monarchie, tu sais, quand tu y penses, OK, le chef de l'État canadien, c'est quelqu'un que parce que son sang, tu sais, est royal, il devient monarque, et juste pour cette simple raison-là, c'est complètement d'une absurdité totale, ça va à l'encontre de toute règle démocratique plus des fondamentales. En tout cas, bref, moi, je trouve qu'ils ont bien fait ça. On savait pas d'ailleurs, est-ce qu'ils vont se faire mettre dehors là, par la force, parce que ça aussi, ça aurait pu faire des images fortes à l'international, mais je pense qu'on décide de le jouer correctement, dans la dignité. OK, on peut pas rentrer, parfait, on accepte le verdict, puis on s'en va. Puis, bon, la suite des choses, c'est, écoute, son quatrième parti d'opposition, on rappellera d'ailleurs qu'ils ont seulement 7 questions sur 100. Mm-hmm. Donc c'est un autre aspect de la rentrée parlementaire, le fait que François Legault nous avait dit, ah oui, tous les partis vont être représentés à l'Assemblée nationale, puis finalement, on a des discussions où finalement le parent pauvre s'est retrouvé à être le Parti québécois pour ce qui est du parti qui a comme des élus, mais qui n'est pas représenté. Puis bon, on parle même pas d'Éric Duhaime, conservateur, qui lui, je veux dire, on lui donne même pas les clés de l'Assemblée nationale. Là, je trouve ça absolument scandaleux. Mais tout ça pour dire que c'est pas, tu sais, le Parti québécois va pas manquer grand chose de cette dizaine de jours de
ça va être
travaux.
À suivre la semaine prochaine. Il reste 4 jours de session avant que le Parlement referme. Alors, si Lefebvre, analyste politique à la joute, je te remercie beaucoup.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Marie Montpetit, le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Avec les retours des députés à l'Assemblée nationale en cette rentrée parlementaire, c'est fête pour les caricaturistes parce qu'on le sait, les politiciens sont une des cibles, pour ne pas dire la cible préférée des caricaturistes. Et ça date pas d'hier, ça fait plus de 250 ans au Québec que la caricature politique existe. Pour en parler avec nous, il a été 15 ans député à l'Assemblée nationale du Québec, caricaturé maintes et maintes fois, Sylvain Gaudreau, ex-député du Parti québécois. Bonjour Sylvain Gaudreau.
Oui, bonjour Marie.
Alors, tu en as plusieurs, toi. Combien en as-tu des caricatures?
Ben, écoute, moi j'ai développé une forme de tradition. Là, à un moment donné, mon équipe dans le bureau de circonscription a commencé à m'offrir des caricatures il y a peut-être une dizaine d'années. Genre à Noël ou à ma fête. Puis bon, j'ai vraiment aimé ça. Fait que là, c'est devenu une tradition. Ils m'les ont toutes offertes. Donc, j'en ai autour de 150, certainement.
Ah oui, quand même, c'est pas mal. Mais je me rappelle qu'on a fait des zooms à une époque, à l'époque pandémique, justement, où on voyait en arrière-plan toutes ces caricatures-là. Puis est-ce que, j'imagine que est-ce qu'il y a certaines caricatures qui ont pu égratigner ton amour propre? T'sais? Est-ce qu'il y a certaines qui ont été plus difficiles à avaler que d'autres?
Honnêtement, non. Moi, j'ai toujours eu un bon rapport avec les caricatures. Puis très franchement, les caricatures n'ont jamais été très méchantes. En tout cas, en ce qui me concerne, là, peut-être que j'ai pas fait de grandes gaffes dans ma vie politique, mais honnêtement, les caricatures, en ce qui me concerne, je les ai toujours trouvées plutôt sympathiques. Quelques-unes un petit peu plus caustiques, mais de façon générale, assez sympathiques. C'est sûr que la grande majorité, c'est des caricatures de Mario Lacroix, qui est caricaturiste au quotidien à Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est sûr que, tu sais, souvent j'ai un gros nez, j'ai les cheveux longs, sinon, sur le fond des choses, pour moi, là, c'était pas, même si des fois, les caricatures, il y avait un message un petit peu plus acerbe, là, pour moi, ça a toujours été bien correct. Là. C'est comme un éditorial.
Oui, c'est bon signe parce que, tu sais, dans le fond, on le sait, en politique, hein, la caricature, c'est un baromètre de l'opinion publique. Là. Je pense que comme politicien, on a tout intérêt à porter attention à comment notre parti ou comment notre personne est caricaturée, mais dans un certain sens, ça flatte l'ego aussi, j'imagine, d'être caricaturé aussi souvent dans ton cas et aussi positivement?
Ben oui, je dirais que, tu sais, la première caricature, je pense dans mon cas, c'est arrivé en 2008, c'est comme une consécration. T'sais, à partir du moment où tu es caricaturé, ça veut dire que tu existes dans l'espace public, tu sais, tu es observé par les caricaturistes, par les éditorialistes, et souvent même des caricatures nous permettent de réfléchir, tu sais, parce que ça traduit
Ça grossit, ça grossit certaines réalités, là.
Exactement, pas juste physique, mais tu sais, sur le message politique là, qui est retenu. Donc, moi, ça me permettait aussi de faire une petite réflexion là, pour la suite des choses sur les dossiers là, qui étaient caricaturés.
Puis est-ce que tu ne penses pas que ça contribue dans certains cas aussi à alimenter le cynisme dans la population? Tu sais, puis je m'explique, on l'a vu là, pendant la campagne électorale, écoute, c'était quand même, il y avait beaucoup de caricatures d'élus et là, c'était rarement positif dans la presse nationale. Est-ce que ça ne vient pas justement alimenter cette perception très négative que certains peuvent avoir des élus?
Moi, je le vois pas comme ça. C'est sûr que des fois, il y a des caricatures un petit peu plus dures. Les caricaturistes sont inégaux aussi. Moi, en tout cas, personnellement, il y en a que je préfère à d'autres, là, mais ça dépend vraiment des goûts. Mais je trouve que c'est tellement une pratique. Tu sais, avant la photo dans les journaux, moi, j'ai une formation en histoire, là, avant qu'il y ait des photos, tu sais, au 19e siècle, c'était beaucoup des dessins politiques, tu sais, pour illustrer les élus, les premiers ministres, etc. Ça s'est transformé après ça en caricature. Puis moi, je le vois vraiment comme une forme d'éditorial. C'est un peu plus, comment je pourrais dire, justement...
Imagé.
Ouais, imagé, mais en même temps, c'est l'art du caricaturiste, c'est d'essayer de synthétiser. Ouais, voilà, en un trait de crayon, une idée, tu sais, qui passe ou... Puis souvent, je trouve en tout cas les meilleurs caricaturistes, c'est ceux qui mettent pas trop de détails puis qui sont capables de camper une idée puis une personnalité. Là. Alors,
en même temps, toi qui as été 15 ans à l'Assemblée nationale, tu dois avoir certains collègues pour qui ça a été plus, sans rentrer dans des noms, mais il y a des imitations aussi qui font mal, là, qui blessent les gens ou des caricatures aussi qui sont plus difficiles que d'autres à digérer le matin quand on fait sa revue de presse.
Oui, surtout quand, tu sais, par exemple, c'est relié à des histoires là, qu'on aimerait mieux pas vivre en politique, soit des chicanes dans un parti ou tu sais, des histoires plus personnelles. Parfois, ça peut faire l'objet de caricatures. Et ça, effectivement, c'est peut-être plus difficile. J'en ai eu quand même quelques-unes un peu de ce type-là, mais... Bon, ça dure quelques heures, puis on tourne la page.
Bon, mais merci beaucoup, Sylvain Gaudreau, ex-député du Parti québécois. Je t'en souhaite d'autres dossiers positifs pour la prospérité. Au revoir.
C'est bon, merci Marie. Salut, à la prochaine.
Là-haut sur la colline. Embarquez avec Marie Montpetit dans les coulisses de la démocratie.
Alors, en ce début de 43e législature à l'Assemblée nationale, ça fait plus de 136 ans que les députés du Québec siègent à l'Assemblée. Puis depuis ce temps-là, il s'en est passé des choses. Et là, cette semaine, bien, les nouveaux députés découvrent certaines traditions, notamment avec les petits blocs de bois qui sont dans leur pupitre et sur lesquels, depuis des décennies, les députés inscrivent leur nom. Là, moi, j'ai eu ça quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, on ouvre notre pupitre, il y a un petit bloc, là, il y a les noms des députés qui ont siégé avant, c'est pour montrer qui a siégé à chaque banquette, chaque place dans le Salon Bleu. C'est pas facile de savoir d'où vient cette tradition, mais on a d'autres histoires qui concernent les traditions de l'Assemblée nationale, et pour en parler avec nous, Jocelyn Saint-Pierre, qui est historien et qui a fait carrière à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, où il a dirigé des équipes d'archivistes, de documentalistes et d'historiens. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Pierre.
Bonjour.
Donc, il y en a des traditions à l'Assemblée nationale. Hein? Vous avez pu documenter ça et prendre connaissance de tout ça au cours de votre carrière.
Oui, mais, comme j'ai fréquenté d'anciens députés, bien, on m'en a raconté beaucoup aussi.
Ben, dites-nous.
Oui, alors écoutez, je ne sais pas, je peux commencer peut-être par... ce qui est intéressant, ce qui est drôle aussi en même temps, c'est qu'il y avait, une tabatière sur la table en face du trône de l'orateur. Là. Et puis la tabatière. Vous êtes toujours là?
Oui, absolument. Ben oui, je vous écoute attentivement.
Alors, la tabatière, les députés chiquaient, hein? Alors, ils prenaient du tabac, ils se mettaient ça dans la bouche, puis ils chiquaient. Et il y avait aussi un crachoir parce qu'à un moment donné, il fallait qu'il spinne Alors, c'était craché dans le crachoir. Il y avait un crachoir à l'Assemblée. Il y avait une tabatière qui avait, été donnée par la reine Victoria. Alors,
autre temps, autre mœurs, hein? Ça, oui, c'est bien avant qu'on interdise de fumer partout. Je sais qu'il y avait, de l'alcool aussi au salon bleu où siégeaient les députés.
Ouais, ben, il y avait la blague que les députés faisaient là, quand il y avait des agents, des employés là, qui les pages, on les appelait les pages, qui remplissaient les verres d'eau, ben là, on disait, ben là, c'est bon de réduire un peu, ou bon, est-ce qu'on vous en a donné suffisamment? Il y avait plein de blagues sur l'alcool là, à l'Assemblée.
Mais est-ce qu'il servait à autre chose que de l'eau dans le salon bleu, vous nous dites?
La tradition, c'était que le trésorier, le ministre des Finances, quand il faisait son discours des Finances, on lui mettait un verre de gin.
Ça le détendait pendant son discours. C'est vraiment une... Ouais, c'est une autre époque, hein?
Oui, c'était... Mais en fait, c'est, nos institutions, l'Assemblée, ça vient d'Angleterre. Hein? On a plein de traditions qui viennent de l'Angleterre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand ils sont allés chercher la nouvelle présidente, elle semblait résister, hein?
Oui, quand il y a un député qui est élu aussi en partiel, hein, je l'ai vu à quelques reprises. Rappelez-moi d'où vient cette tradition-là.
En fait, c'est que la tradition britannique, c'est que le roi n'avait pas le droit d'entrer dans la salle des délibérations, dans la Chambre des communes. Et c'est l'orateur qui faisait les messages entre les deux chambres. Donc, le roi voulait savoir ce qui s'était passé dans la Chambre des députés. Puis là, ben comme il y a eu des orateurs qui n'ont pas voulu répondre, ben ils sont fait couper la tête. Alors, c'est un peu ça, là, qui... c'est fou, là, mais c'est...
Donc, on rentre de force, dans le fond, le président ou la présidente pour...
Parce qu'il veut pas nécessairement avoir des problèmes.
Il veut pas aller se faire couper la tête, c'est ça, quand on les entraîne. D'accord, charmant.
C'est ça.
Et dans la tradition aussi, je pense qu'il y a toute la question de la distanciation entre les banquettes, les chaises, dans le fond, du gouvernement et celles de l'opposition. Ça, c'est normé
oui,
aussi.
Oui, c'est très intéressant parce que les parlements de type britannique, c'est deux rangées. Hein, il y a deux rangées de députés. Donc, il y a les députés qui siègent à droite et les députés qui siègent à gauche. Et les députés qui siègent à droite, c'est le gouvernement, puis ceux qui siègent à gauche, c'est l'opposition. Et on disait qu'il y avait une longueur de deux épées entre les deux pour pas qu'ils se...
qu'ils se coltaillent.
En fait, l'origine de l'expression « être de gauche ou de droite », ça vient de là. Parce que les gens qui étaient progressistes étaient souvent dans l'opposition, puis la droite, ben, c'était souvent des conservateurs, des royalistes. Alors, c'est un peu l'origine de droite et gauche, là, ça vient un peu de là.
Oh, fort intéressant. Puis vraiment. Puis on me faisait remarquer aussi cette semaine à l'Assemblée, on a tendance à dire on va aller rejoindre les banquettes des députés. Puis quelqu'un me disait, oui, mais il n'y a pas de banquette au Salon Bleu, on a chacun notre fauteuil. Mais ça aussi, c'est une appellation qui vient du Parlement britannique parce qu'ils ont vraiment des banquettes.
Oui, c'est vraiment des banquettes, oui, oui.
Alors qu'au Salon Bleu, on n'a pas ça du tout, on n'a pas de banquette. On parle tout le temps des banquettes de députés.
Oui, c'est vrai. Et puis, même en Angleterre, à la Chambre des communes, les députés n'ont pas tous un siège. Ils peuvent pas tous assister au débat. Là. Ils font ça par rotation.
Oui, puis ils sont pas mal empilés les uns sur les autres quand on regarde les débats. Là.
Je ne sais pas combien ils sont rendus de députés, là, mais ils peuvent pas siéger tous en même temps. Ils n'ont pas de banquette pour tout le monde, c'est ça.
Puis est-ce qu'il y a d'autres traditions comme ça qui se sont perdues avec le temps, sûrement? Hein?
Oui, il y a il y a une tradition comme la masse qui existe encore. Ça, c'est intéressant parce que ça représente l'autorité de l'Assemblée. Et vous savez que sans masse, l'Assemblée ne pourrait pas siéger. Sauf qu'il y a eu des étudiants de l'Université Laval dans les années 60 qui l'ont... Ils l'ont emprunté pour leur carnaval, alors. Ils l'ont rapporté, l'Assemblée a pu siéger.
Et l'Assemblée n'avait pas pu siéger à ce moment. Ouais, parce qu'effectivement, nous, dans nos journées, moi, j'étais 8 ans et demi à l'Assemblée nationale, toutes les journées commencent de la même façon. Avant la période de questions, le sergent d'armes entre et dépose la fameuse masse sur le trône. Et là, on a le droit de siéger. Mais donc, l'Assemblée nationale, les travaux avaient été suspendus?
Oui, mais je me souviens pas si c'était la fin de semaine ou. Mais effectivement, ça avait pas duré très longtemps. J'ai plein de. Bon, écoutez, là, on parlait de la cigarette. Ben, les députés avaient le droit de fumer à l'Assemblée. Moi, je me souviens que M. Lévesque, là, c'est pour ça que quand on a interdit la cigarette, M. Lévesque faisait toujours un geste auprès de son couvercle pour aller chercher une cigarette, parce qu'il y avait des cendriers sur chacun des bureaux. Alors, on fumait, imaginez-vous, dans l'Assemblée. Il y avait aussi, il y a un député Cardin en 1912 qui a mis le feu dans sa barbe. Alors, ça avait causé comme un certain émoi.
Oui, ça avait dû mettre de l'action dans les échanges, j'imagine.
Oui, puis après ça, les choses les plus. Ah oui, ben oui, il y a le poêle à bois. Alors, ça a été dans le temps là, où le Parlement était sur la côte de la montagne, là. Hein, au 19e siècle. Alors, il y avait un poêle pour réchauffer un peu la salle et naturellement, le poêle était du côté du gouvernement. Alors, l'opposition, il gelait. Alors, c'est pour ça que l'expression « les froides régions de l'opposition », c'est à cause de ça.
Ça vient de là parce qu'il faisait plus froid du côté de l'opposition. Ah, ben là, quand on dit que le gouvernement est choyé de temps en temps, l'Assemblée nationale, ça doit venir de là aussi.
Oui, puis des fois, il n'est pas toujours très, très accueillant, accommodant pour l'opposition.
Ah non, c'est ça. Monsieur Saint-Pierre, je vous remercie extrêmement. Vous êtes une mine d'informations, ancien historien qui a fait carrière à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'était passionnant.
Ça m'a fait plaisir.
Merci.
Cube Radio.